Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette fête de tous les saints, aujourd'hui, c'est la fête du ciel. Le ciel, cet état de bonheur qui ne finira jamais, eh bien c'est le but de notre vie. Dieu en effet nous a créés, nous a sortis du néant pour que nous soyons heureux. La morale catholique, si magnifiquement expliquée par saint Thomas d'Aquin, c'est la morale du bonheur. C'est ainsi qu'il faut considérer la morale. Elle est le mode d'emploi, si l'on peut dire, pour arriver au bonheur. Évidemment, des incroyants diront « Mais comment pouvez-vous affirmer cela ? Vous ne voyez donc pas tous les malheurs qui font la vie de tant d'hommes sur cette terre ?» Réponse : c'est de notre faute. La maladie, les injustices, les guerres et finalement la mort, c'est la conséquence du péché. Dieu n'avait pas voulu cela dans le premier paradis. C'est en se révoltant contre Dieu que l'homme a fait venir tous ses malheurs sur la terre. Mais dans son plan d'amour infini pour les hommes, Dieu nous a envoyé son Fils, qui a porté sur ses épaules non seulement tous nos péchés, mais aussi toutes nos souffrances, jusqu'à la plus cruelle des morts, pour que les malheurs eux-mêmes, dont les hommes sont la cause, servent à leur salut. Pour que ces épreuves soient la monnaie qui leur fera acheter leur bonheur éternel, dans la mesure bien sûr où ils uniront les croix de leur vie à la croix du Fils de Dieu, et ce que souvent ils ne font pas, hélas, par manque de foi. Il faut bien comprendre que les épreuves que le bon Dieu peut permettre dans une vie humaine sont là pour nous aider à réparer nos péchés et à nous purifier de nos défauts, donc qu'elles diminuent notre temps de purgatoire et qu'elles nous font aller plus tôt au ciel, si nous les offrons. C'est dans ce sens que l'on peut dire que la croix est la gloire du chrétien, le prix de sa gloire future, de son bonheur futur. Pour nous encourager, saint Paul précise même que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Ajoutons que les épreuves de cette terre peuvent aussi obtenir à notre prochain des grâces de progrès spirituel ou de conversion si nous les offrons à cette intention. Et alors nos propres croix nous rendent co-rédempteurs avec notre Seigneur et notre Dame. Mais quel est-il ce bonheur qui nous attend et qui est le but de notre existence? Il faut bien dire ici qu'il est difficile de parler du ciel. En effet, le bon Dieu aurait pu nous tirer du néant pour nous donner un bonheur à notre niveau. Cela aurait déjà été extraordinaire. Et c'est d'ailleurs le bonheur des enfants qui sont morts avant l'âge de raison, sans avoir été baptisés et qui sont au limbe. Mais le bon Dieu a eu davantage d'ambition pour nous. Dans son amour infini, il a voulu nous faire participer à son propre bonheur. Il nous a créés pour nous faire entrer dans la famille de la Sainte Trinité, vivre avec elle pour toujours, profiter de son bonheur pour toujours. Ce que Dieu nous a préparé au ciel est donc au-dessus de tout ce que nous pourrions imaginer. Comme le dit saint Paul, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et il n'est point monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais nous pouvons quand même en donner quelques caractéristiques. On peut déjà savoir ce dont le ciel nous délivrera. Le livre de l'Apocalypse dit en effet que les élus n'auront plus ni faim ni soif, et le soleil ni aucune chaleur ne les incommodera plus, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ceci est à prendre au sens large. Le Saint-Esprit veut dire par là que le ciel nous délivrera de tous les tourments de cette vie terrestre, ce qui est déjà une libération magnifique. Et par rapport aux maux de cette terre, il faut être bien persuadé que le mal principal, c'est le péché. Le péché qui offense notre Créateur, qui fait tant de mal à notre âme et qui peut finir par nous précipiter en enfer pour toujours. Eh bien, c'est surtout de ce mal-là que le ciel nous libérera. Au ciel, en effet, il n'y a plus aucune possibilité de péché. Lorsqu'on possède le plus grand des biens, la source de tous les biens qui est Dieu, lorsqu'on est captivé, enivré, si l'on peut dire, par la possession de Dieu, quel autre bien pourrait attirer notre attention et nous inciter à nous détourner de Dieu ? Impossible. Mais parlons de ce qui fait l'essentiel du bonheur des élus. Nous parlons pour le moment du bonheur de l'âme, parce que tant que la résurrection des corps n'a pas eu lieu, les justes ne sont qu'avec leur âme dans la gloire du ciel. Mais l'âme, avec son intelligence et sa volonté, c'est la partie la plus élevée de l'homme, celle qui le distingue de toutes les autres créatures terrestres. Eh bien, c'est là que va se trouver le bonheur essentiel du ciel, dans une vision de Dieu face à face qui nous comblera d'amour. Une vision de Dieu. Dans le serment sur la montagne que nous venons d'entendre à l'Évangile, notre Seigneur le dit très clairement. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous le verrons tel qu'il est, commente saint Jean. Et saint Paul écrit aux Corinthiens, « Maintenant nous voyons comme dans un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » Bien sûr, il faut comprendre ce que l'on entend ici par « voir ». Il ne s'agit pas d'une vision avec les yeux du corps. D'abord parce que nous parlons du bonheur du ciel avant la résurrection des corps. Et surtout parce que Dieu étant pur esprit ne peut être vu avec les yeux d'un corps de chair. Dans la vision face à face, c'est Dieu qui se rend présent immédiatement à l'intelligence, ce qui lui permet de contempler Dieu, de le connaître tel qu'il se connaît lui-même. Autant bien sûr que cela est possible à une intelligence créée, puisque aucune créature ne peut embrasser l'infini. Cependant, puisque connaître Dieu comme il se connaît dépasse nos capacités naturelles, bien sûr, eh bien il aura fallu que notre intelligence soit surélevée par ce qu'on appelle la lumière de gloire. Dans votre lumière, nous verrons la lumière que vous êtes, dit le psaume. Il faut préciser que cette lumière de gloire sera proportionnée au degré de charité, au degré d'amour de Dieu que nous aurons eu à l'instant de notre mort. De la même manière qu'une étoile diffère en clarté d'une autre étoile, dit saint Paul, ainsi les justes dans le ciel sont illuminés différemment selon leur degré de charité. Connaissant Dieu en ce qu'il est, les justes voient clairement les trois personnes, le Verbe procédant du Père, le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils, tout cela dans l'unité de la nature divine. Du même regard de l'intelligence, ils contemplent les perfections divines, dont ils n'avaient sur terre qu'une idée confuse, la sainteté absolue de Dieu, sa sagesse, sa bonté, sa justice, sa miséricorde. Ils voient la sainteté de notre Seigneur, son plan d'amour sur le monde et la place qui occupe la Vierge Marie. De Notre-Dame, ils contemplent sa sainteté qui touche presque à la divinité. Ils contemplent son rôle de médiatrice universelle, de co-rédemptrice. Du même regard et dans le même instant, il voit l'Église triomphante au ciel, l'Église souffrante au purgatoire, l'Église militante sur cette terre. Les justes au ciel connaissent aussi en Dieu les autres bienheureux, surtout ceux qu'ils ont connus sur cette terre. Et soit immédiatement en Dieu, soit par des idées qu'ils reçoivent, ils connaissent l'état et les besoins de ceux qui sont encore sur la terre ou au purgatoire. Par exemple, un fondateur d'ordre religieux connaît tout ce qui concerne sa famille religieuse et les prières que ses fils lui adressent. Un père et une mère de famille connaissent les besoins spirituels de leurs enfants qui sont encore ici-bas. Un ami arrivé au but de sa course connaît ce qui peut faciliter le voyage des amis qui s'adressent à lui. Vous voyez ces liens entre l'Église de la terre et l'Église du ciel? Ils pensent d'ailleurs davantage à nous que nous à eux. Dans la patrie céleste, dit saint Cyprien, tous ceux des nôtres qui y sont arrivés nous attendent, désirent vivement que nous participions à la même béatitude et sont pleins de sollicitude à notre égard. Dans cette connaissance parfaite, les habitants du ciel voient maintenant toutes choses telles qu'elles sont en réalité, en toute vérité. Alors que sur terre, l'orgueil ou les passions peuvent facilement nous aveugler. Et toute la vie qu'ils ont eue ici-bas leur apparaît d'un seul regard, où ils peuvent admirer comment la Providence n'a cessé de les conduire jour après jour. Mais le bonheur du ciel ne s'arrête pas à cette vision de Dieu face à face et à la vision de toutes choses en Dieu. Les saints du ciel ne peuvent voir Dieu sans l'aimer. Un amour qui est fait d'admiration, de respect, de reconnaissance. L'amour de l'enfant pour le plus parfait, le plus tendre et le plus aimant des pères. Et cette vision et cet amour les emplissent de joie. Saint Augustin définit le bonheur du ciel « visio cum gaudio », une vision accompagnée de joie. Et c'est la récompense que notre Seigneur nous promet dans la parabole du serviteur fidèle. « Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Examinons bien les mots. Jésus ne dit pas « Vous allez vous réjouir ». Il dit « Entrez dans la joie de Dieu ». C'est que le bonheur du ciel étant une participation au bonheur de Dieu dépassant tout ce que les hommes peuvent imaginer, la joie qui en résulte dépasse toute joie connue sur cette terre. Au ciel, les justes sont comme absorbés par la joie de Dieu, dit saint Thomas d'Aquin. On peut poser une question. Ne finirons-nous pas par nous lasser? L'éternité, c'est long. Non, parce que l'éternité, ce n'est pas un temps qui n'en finit pas. Au ciel, on n'est plus dans le temps, on est dans un éternel présent. Comme le dit un auteur, le premier instant de la vision béatifique dure toujours comme un éternel matin, un éternel printemps, une éternelle jeunesse. À la résurrection des corps, à la fin du monde, il y aura comme un rebondissement de joie pour les élus. Bien sûr, jusqu'ici, voyant Dieu face à face, rien d'essentiel ne manquait à leur bonheur. Mais l'homme n'est complet qu'avec son corps. Et le vendredi saint, notre Seigneur a vaincu la mort, qui est justement la séparation de l'âme et du corps. Et il a ainsi mérité qu'un jour, comme pour lui, eh bien, notre âme et notre corps se retrouveront réunis par la puissance divine. Mais retrouvant cette foi, une âme qui est devenue glorieuse, notre corps va s'en trouver spiritualisé. Attention, un vrai corps, non pas un fantôme de corps. Après sa résurrection, notre Seigneur a voulu se faire toucher par ses apôtres, manger devant eux, même s'il n'en avait plus besoin. Mais ce vrai corps des élus aura des propriétés nouvelles qui lui viendront justement de sa spiritualisation par l'âme glorifiée. Il ne pourra plus souffrir, il ne pourra plus être malade, il ne pourra plus mourir, il ne gênera plus l'âme, plus de fatigue, plus besoin de dormir. Il pourra se trouver l'instant d'après là où l'âme le désirera, et il sera lumineux, magnifique. Quel bonheur alors pour les élus de pouvoir contempler avec leurs yeux de chair, cette fois, notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans sa gloire, la Sainte Vierge, tous les saints, tous ceux que nous aurons connus et aimés sur terre et qui sont sauvés, et toute cette foule immense chantant sans fin la gloire de Dieu dans la liturgie éternelle du ciel. Alors que la pensée du ciel et du bonheur qui nous y attend nous donne courage pour porter les croix de nos sacrifices quotidiens, pour pratiquer les béatitudes que l'Évangile de ce jour nous a énumérées et qui sont l'escalier pour arriver au bonheur sans fin. Attention, il n'y a qu'un escalier. Et si parfois nous sommes accablés par l'épreuve, par les soucis, rappelons-nous surtout avec saint Paul que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.